Journal présenté par Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine Genton, bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump a décrété l'état d'urgence à l'approche de la tempête tropicale Barry vers la Nouvelle-Orléans, la ville hantée par le souvenir du puissant ouragan Katrina et qui se prépare dès ce soir à des pluies diluviennes. Nouvelle illustration du rôle influent de sa famille dans la gestion des affaires intérieures et diplomatiques du pays, le président brésilien Jair Bolsonaro envisagerait de nommer son plus jeune fils ambassadeur à Washington. Et puis en France, la ministre de la Santé a présenté ce matin le rapport sur les bébés nés sans bras. Un comité d'experts avait été mis en place en février pour déterminer les causes possibles de ce cas groupé d'enfants nés avec une malformation. Des investigations complémentaires sont préconisées uniquement pour les cas situés dans le Morbihan, mais pas pour l'Ain ni la Loire-Atlantique. Si les prévisions se concrétisent, Barry, c'est son nom, sera le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique. Celui qui n'est encore qu'une tempête tropicale continue à gagner en puissance et devrait se transformer ce soir en cyclone tropical juste avant que son centre n'atteigne les côtes de la Louisiane. Dès hier soir, le Centre national des ouragans a émis une préalerte pour de puissantes rafales de vent, des pluies diluviennes et des crues soudaines potentiellement mortelles dans les zones côtières et le long des fleuves. De son côté, Donald Trump a lui décrété dès ce matin l'état d'urgence. Quant à la maire de la Nouvelle-Orléans, dont la ville porte encore près de 15 ans après les stigmates du puissant ouragan Katrina, elle a appelé les habitants à rester à l'abri et à rassembler des provisions. Les précisions de notre correspondant à New York, Loïc Loury.
Un épisode de pluie extrême et des inondations potentiellement mortelles. Les autorités mettent en garde avant l'arrivée en Louisiane de la tempête Barry. Elle pourrait se transformer en ouragan ce soir ou demain matin. Pour les habitants de la Nouvelle-Orléans, le risque principal vient du Mississippi. Les digues qui protègent la ville peuvent contenir plus de 6 mètres d'eau, mais ce niveau pourrait être atteint dans les 48 heures. Le débit du fleuve, en effet, flirte déjà avec les records pour cette période de l'année. 15 à 20 cm de pluie sont tombés ces derniers jours par endroits sur la ville, entraînant d'importantes inondations et jusqu'à 50 cm de plus sont attendus avec l'arrivée de la tempête. Résultat, donc, cet état d'urgence qui permet la mobilisation des agences fédérales. Soyez prudents et soyez en sécurité, a notamment tweeté Donald Trump. Dans plusieurs comtés, des ordres d'évacuation obligatoires ont été lancés. La sécurité intérieure, elle, indique que les services chargés d'expulser les immigrés en situation irrégulière ne cibleraient pas les migrants évacués. La Nouvelle-Orléans, enfin, se prépare comme elle peut. La maire de la ville appelle les habitants à rester à l'abri, à rassembler des provisions. En 2005, le passage de Katrina avait entraîné la mort de 1800 personnes, dont un millier, dans cette ville en partie construite en dessous du niveau de la mer.
Toujours aux États-Unis, Donald Trump a annoncé aujourd'hui que le secrétaire d'État au travail, Alexander Acosta, avait décidé de démissionner, jugeant sa mise en cause dans une affaire d'abus sexuels impliquant le financier américain Jeffrey Epstein, incompatible avec son maintien en fonction. Reprenons en tout point la stratégie de pression maximale appliquée par Donald Trump lorsqu'il s'agit de protéger ses intérêts nationaux. La Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle allait imposer des sanctions contre les entreprises américaines impliquées dans une vente d'armes à Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté. La nature des mesures de représailles envisagées n'a en revanche pas été précisée. La Russie a livré aujourd'hui à la Turquie les premiers éléments de ses systèmes de défense anti-aérienne. Voilà des mois maintenant que l'achat de ses batteries de missiles par Ankara est la source de vives tensions entre la Turquie et les États-Unis. Pourquoi ? Parce que ces systèmes ne sont pas compatibles avec ceux de l'OTAN, dont la Turquie occupe pourtant le flanc oriental. Et c'est ainsi que Washington menace à présent d'exclure la Turquie du programme de développement du chasseur furtif américain F-35 auquel elle est associée. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Est-ce ainsi qu'il faut comprendre aujourd'hui la décision du Royaume-Uni d'accroître temporairement sa présence militaire dans le Golfe en avançant le déploiement d'un deuxième navire de guerre? Mais surtout et plus encore, la question se pose décidément chaque jour un peu plus des effets néfastes possibles de cet adage. Difficile aujourd'hui de savoir qui de l'Occident et de l'Iran provoque l'autre. Or, quand bien même sur les marchés financiers comme parmi les experts, personne ne croit au risque réel d'une guerre dans le Golfe Persique, la situation n'en reste pas moins critique. Parce qu'après tout, on n'est jamais bien aussi bien servi que par soi-même ou ses proches, voire très proches. Le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, dit aujourd'hui envisager de nommer son fils Eduardo ambassadeur aux États-Unis. Alors la décision reviendra tout de même à son cadet, d'autant que pour prendre ses fonctions à Washington, celui-ci n'aura d'autre choix que d'abandonner son mandat de membre du Congrès, et puis sa nomination devra également être soumise à l'approbation du Sénat. Mais à 35 ans, Eduardo Bolsonaro a d'ores et déjà indiqué qu'il accomplirait cette mission question si c'est bien celle choisie par son père. Ou quand le chef d'État brésilien, lequel n'a jamais caché son admiration pour un certain Donald Trump, continue sur le modèle du président américain à s'entourer de ses proches au sommet de l'État. Les précisions de Louise Baudet.
C'est l'autre point commun des présidents nord et sud-américains. Climato-sceptiques, ultra-conservateurs, amoureux des armes à feu et dotés d'un sens aigu de la famille. Donald Trump a placé sa fille Ivanka au cœur de l'appareil d'État et choisi comme haut conseiller son gendre Jared Kushner. Jair Bolsonaro, lui, veut faire de son fils Eduardo l'ambassadeur du Brésil aux États-Unis. Il est un ami des enfants de Trump, il parle anglais et espagnol, il a une très large expérience, justifie le président brésilien qui se défend de tout népotisme. Eduardo est déjà son conseiller pour les affaires étrangères. C'est lui qui l'a accompagné en visite officielle à la Maison-Blanche en mars dernier. Lui, plutôt que le ministre des Affaires étrangères, comme l'aurait voulu le protocole. Un événement relayé en quasi-direct sur le compte Twitter d'Eduardo, qui aime la mise en scène de lui-même et de son père. Eduardo, troisième d'une fratrie haute en couleur. Le fils aîné Flavio, 37 ans, promeut le programme conservateur de son père sur les questions de société, quoique plus discrètement depuis qu'il est visé dans une affaire de détournement de fonds. Vient ensuite Carlos, 36 ans, surnommé le Pitbull. Il s'occupe d'une partie de la communication présidentielle et s'en prend régulièrement à des membres du gouvernement. Carlos, Flavio, Eduardo, trio de choc, parfaitement en phase avec les idées d'extrême droite de leur père et parfaitement emblématique d'un de ses thèmes fétiches, la défense de la famille.
Criminel ou victime? Voilà la question à laquelle la cour d'assises de Palerme était appelée à répondre aujourd'hui à l'occasion du procès d'un érythréen accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafiquants de migrants et soupçonné en particulier d'avoir affrété le bateau dont le naufrage avait fait plus de 366 morts devant l'île de Lampedusa. C'était le 3 octobre 2013. Après un long procès, la cour a finalement reconnu une erreur d'identité. En clair, ce réfugié érythréen avait seulement le même prénom que l'homme recherché. Il a donc été libéré, même si la cour a tout de même assorti sa décision d'une condamnation à 5 ans de prison, une peine couverte en l'occurrence par sa détention préventive pour aide à l'immigration clandestine. On l'appelle la génésie transverse des membres supérieurs, cette malformation très particulière qui se caractérise par l'absence de formation d'une main, d'un avant-bras ou d'un bras au cours du développement de l'embryon, est aujourd'hui plus connue sous le nom de l'affaire dite des bébés nés sans bras. Hier, les conclusions de 8 mois d'enquête sur ces cas groupés d'enfants nés dans certaines zones du Morbihan, de l'Ain et de la Loire-Atlantique entre 2009 et 2013 ont été dévoilées aux familles concernées et ce matin, elles étaient cette fois-ci présentées officiellement. Lisa Guyenne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors en réalité, le comité d'experts se sera surtout borné à expliquer la complexité de sa démarche, car sur le fond, Lisa, l'enquête n'a pas permis de déterminer les causes de ces malformations, aucune révélation. Y a-t-il au moins des hypothèses? Quels sont au final ces résultats?
Alors en fait, ces 8 mois d'enquête ont seulement permis au comité scientifique de reprendre toute la méthodologie depuis le début pour repartir sur des bases saines, en quelque sorte. Le secteur, aussi appelé cluster de Loire-Atlantique, a ainsi été mis de côté pour l'instant, car le comité n'a pas pu accéder à tous les dossiers médicaux nécessaires. Le cluster de l'Ain, lui, a été complètement écarté, explique Alexandra Benaki. C'est la présidente du comité scientifique.
Statistiquement, l'Ain, c'était finalement que 6 cas sur une très longue période, dans 6 communes différentes, dont certaines sont assez éloignées. Avec la façon dont ils sont répartis dans le temps et dans le territoire, il n'y a pas de cluster.
Seul secteur retenu pour l'heure, celui du Morbihan, donc avec 3 cas avérés en 18 mois et dans le même périmètre, le village de Guidel, près de Lorient. Mais là encore, Alexandra Benaki a tenu à passer un message clair. Il est très peu probable que l'on trouve un jour les causes de ces malformations.
Je dirais pas que c'est impossible, sinon on demanderait pas à l'ANSES de faire 1 an de travail, 3 personnes à temps plein pour rechercher une cause. Mais la probabilité qu'on trouve quelque chose est très faible et on aimerait bien pouvoir dire c'est sûr, c'est telle substance. Mais malheureusement, statistiquement et scientifiquement, ça va être très compliqué à démontrer. Mais on a décidé d'aller faire les analyses quand même.
Pour cela, les chercheurs vont se pencher sur les registres d'épandage agricole qui pourraient les renseigner sur les pesticides utilisés ces dernières années autour de Guidel. Ils doivent aussi passer en revue plus de 21 000 articles scientifiques sur le thème de cette malformation. Un travail titanesque qui risque donc de prendre plusieurs années.
Merci Lisa Guyenne. Est-ce parce qu'au fond, les hommes et les femmes politiques ne sont pas plus moraux qu'ailleurs qu'initialement le Premier ministre préférait le terme de rétablissement de la confiance plutôt que celui de moralisation pour désigner ces lois qui, symboliquement, avaient ouvert le quinquennat d'Emmanuel Macron, quoi qu'il en soit. Et après 2 ans d'exercice du pouvoir, force est de constater que les polémiques sur de supposés abus scandent toujours et encore la vie politique jusqu'à atteindre cette fois-ci, ironie de l'histoire, l'un des chantres justement de cette transparence, François de Rugy. Alors ce matin, en dépit des révélations de la presse sur son train de vie, le ministre de la Transition écologique a redit sa détermination à conserver son poste de numéro 2 du gouvernement, tout en assurant d'ailleurs avoir reçu le soutien sans équivoque d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Reste qu'outre la polémique donc autour de ses dîners fastueux et des travaux dans son logement de fonction, la révélation ce matin par le journal Ouest-France de l'organisation il y a quelques mois d'un dîner à son ministère avec des lobbyistes du monde de l'énergie risque là encore de faire au minimum un peu de bruit. Et pourquoi? Parce que sa parole en tant que ministre de l'écologie s'en trouve désormais d'autant plus affaiblie. C'est du moins l'analyse défendue par Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, il le dit à Rosalie Lafarge.
D'abord, lui-même a une histoire politique personnelle, il vient de l'écologie politique et que l'écologie politique s'est construite toujours en résistance face au lobby. C'est un des éléments forts de l'ADN politique des Verts que de considérer que justement il faut aujourd'hui, pour mettre en place des politiques publiques environnementales, être susceptible de ne pas céder aux sirènes des lobbies. À partir du moment où lui-même, en tant que ministre de l'Environnement, reçoit de manière informelle, dit-il, des représentants des lobbies, et il fragilise inévitablement la crédibilité et la sincérité de son engagement écologique. Il est clair que si la crise autour de la personnalité de François de Rugy devait se poursuivre, la question de son maintien devrait se poser au plus haut niveau de l'État. En plus, il est à la tête d'un département ministériel qui aujourd'hui est affiché comme une des priorités du Premier ministre. Souvenez-vous la déclaration de politique générale du gouvernement il y a quelques semaines, où l'affichage écologique constituait une priorité pour le gouvernement. Donc il y a une vraie difficulté pour lui, c'est aujourd'hui de pouvoir tenir son rôle de ministre et en même temps de pouvoir se défendre, ce qui rend vraisemblablement sa position extrêmement fragile.
Lui était le protagoniste du feuilleton de l'été dernier, lui c'est Alexandre Benalla. Ce matin, l'association de lutte contre la corruption Anticor a déposé une plainte contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée auprès du parquet national financier. Une plainte pour corruption, corruption passive, blanchiment et entrave à la justice. La naissance d'un chasseur où quand Emmanuel Macron célèbre la fin de la construction du sous-marin nucléaire Suffren, le président a officiellement lancé aujourd'hui à Cherbourg le mastodonte d'acier, le premier bâtiment réalisé d'une série de 6 nouveaux navires d'attaque à propulsion nucléaire. Le coût de ce programme qui accuse 3 ans de retard s'élève à plus de 9 milliards d'euros. Comme chaque soir, direction Avignon, à présent avec vous Arnaud Laporte. Aujourd'hui, un spectacle jeune public à la fois drôle et grinçant, Blanche-Neige, histoire d'un prince, mise en scène par Michel Raskin.
S'il est une chose qu'Olivier Py a particulièrement réussi depuis qu'il dirige le Festival d'Avignon, c'est la programmation à destination du jeune public. Je vous parlerai d'ailleurs dans les prochains jours du spectacle qu'il signe lui-même, L'amour vainqueur. Olivier Py a choisi de concentrer les spectacles jeunes publics dans un très beau lieu du festival, la chapelle des pénitents blancs. Ce faisant, il a assuré une visibilité à cette programmation qui était auparavant disséminée dans différents lieux. C'est là qu'on a donc pu découvrir Blanche-Neige, histoire d'un prince, un texte de Marie Dilasser mis en scène par Michel Raskin, et c'est un régal. À une époque où la question du genre est enfin considérée, le premier geste fort de ce spectacle est de faire interpréter le prince par une femme et Blanche-Neige par un homme, tout comme Souillon aux cheveux jaunes, troisième personnage de ce jeune massacre, Souillon qui est aussi le technicien du spectacle. Jeune massacre car le spectacle commence bien longtemps après la fin du conte, bien longtemps après le mariage du prince et de Blanche-Neige, bien longtemps après la fin de l'amour. Si le texte est très bien écrit, avec beaucoup d'humour, il est aussi formidablement porté par un trio de comédiens tout à fait atypiques. Entendre ainsi parler de féminisme, d'écologie, de pouvoir et de la difficulté de la vie de couple devant un parterre d'enfants extrêmement attentifs, c'est un plaisir qu'il ne faudrait pas bouder. Dans une économie de moyens, avec une structure modulable qui permet les changements de décor, la mise en scène de Michel Raskin a une grande efficacité comique, mais n'occulte pas les moments les plus grinçants, jusqu'à un final très émouvant.
On termine avec un mot du temps pour demain. Nuageux sur le nord-est avec quelques passages d'averses et agréable partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 24 degrés le matin et jusqu'à 34 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy.